Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct comme tous les soirs, bien sûr, dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. L'After est sur RMC à la radio, l'After est sur RMC Sport News à la télé, bien sûr, avec Daniel Riolo. Ce soir, Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et avec Jérôme Antenne qui est resté avec nous, qui a vibré pendant le match il y a quelques minutes. Salut Jérôme.
Bonsoir à tous.
Deux qualifiés donc pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Reims et Monaco. Reims bat Montpellier 1-0 et Lille gagne donc à Monaco 3-0. On parlera également du choc Dortmund-Leipzig tout à l'heure avec Paulo Breitner, puisqu'on suit de près le Borussia, puis c'était quand même un beau match de Bundesliga ce soir. 3-3.
Tu penses que c'était mieux que Monaco-Lille?
Disons que c'était un peu plus engagé, on va dire.
Ah oui,
disons qu'il y avait plus d'opposition, quoi.
Non, mais c'est juste pour savoir, hein, parce qu'après, je veux pas qu'on pense que j'exagère.
Et puis, un autre match en Angleterre, mais celui-là, on n'en parlera pas, mais je vous donne le sort quand même, c'est que Liverpool a perdu 5-0 ce soir contre Aston Villa, en Coupe de la Ligue.
Avec son équipe de jeunes,
puisque ça, c'est la joie.
23 ans.
Les coach Courbis qui s'énerve après le calendrier français, je pense qu'en Angleterre, il serait bien, puisque donc, les Anglais n'ont pas bougé les dates de Coupe de la Ligue, alors que demain, Liverpool joue le Mondial des Clubs, la demi-finale.
C'est quand même injuste.
Donc deux matchs en 48 heures, donc merde, bravo les Anglais. Et donc en 24 heures même, puisque c'est dans moins de 24 heures que Liverpool joue demain en Coupe du Monde des Clubs.
Mais bref. Ces calendriers-là ne cesseront pas. Ce qui va changer, c'est les effectifs. Il y aura des effectifs encore plus gros et une équipe qui jouera championnat à Coupe d'Europe et le reste joueront les autres compétitions.
Oui, non, mais là, c'est un cas quand même à part.
Là, Daniel, c'est sûr que c'est un cas complètement particulier.
Oui.
Non, mais plus globalement, à partir du moment où, de toute façon, t'as une Coupe de la Ligue, t'as une troisième compétition nationale, tout ça, t'es obligé de faire tourner. Mais après tout, si t'as un effectif élargi, c'est bien pour faire jouer les joueurs qui y sont. Certes, c'est pas ton équipe Fagnon, c'est une équipe qui aura moins d'automatisme, mais au moins, ça fait jouer tout le monde. J'ai failli faire un lapsus, ça fait chier tout le monde. On se demande pourquoi j'ai dit ça, c'est que effectivement, c'est un peu inconscient, mais c'est vrai que les remplaçants, quand ils jouent dans ce genre de compète-là, j'ai pas l'impression souvent qu'ils veulent se montrer ou jouer.
Alors,
à la
Daniel,
fond, ou je, ouais. C'est toujours
ne
un petit peu perturbant.
Ne pars pas bille en tête, j'ai deux, trois messages à faire passer.
Non, j'ai pas de bille en tête, t'inquiète.
Déjà, 32-16 bien sûr pour débattre de tous les sujets du soir. N'hésitez pas à nous appeler, vous avez Sino Direct Studio sur nos applis gratuites pour nous envoyer un message ou bien le hashtag RMC Live sur Twitter. Et je rappelle que le grand jeu de Noël continue. Encore toute la semaine, évidemment. Donc vous envoyez Noël par SMS au 732-16 dès maintenant et vous pourrez peut-être, si vous êtes tiré au sort, gagner un iPhone, gagner une télé, gagner un appareil photo. Qu'est-ce qu'on a encore? Des tablettes tactiles. Bref, on a du lourd pour vous et rien que pour vous, des PS4, des Xbox. Donc tout ça en envoyant Noël par SMS au 732-16. On aura notre gagnant tout à l'heure en fin d'after. Allez, en Coupe de la Ligue, il n'y a pas de 3 points, mais on s'en fout parce que dans l'after, l'essentiel, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Mon
petit Daniel, 3 points de débat ce soir. Tu peux faire tout sujet, hein.
Là, c'est...
Si t'as pas envie de parler de Reims-Montpellier.
Ce soir, je pense que c'est les 3 points les plus compliqués de la saison, là. Parce que, Reims-Montpellier, ça pourrait être le point 1 évacuant ce match disputé sur un champ de patates.
Il paraît que c'est la faute du ballon, c'est ce qu'a dit Zakarian.
Ouais, je sais pas si on peut faire et disputer un match. Quand les mecs après se plaignent, bon, on va dire que c'était nul, parce que là je suis en train de développer. Le point 2, Lille, malgré tout, au moins eux ont joué beaucoup de matchs, hein, cette année, tous les 3 jours. Mais à chaque fois ils ont essayé de jouer. Cette équipe, moi je la trouve sympathique. Je trouve qu'elle donne envie d'être soutenue. J'ai beaucoup aimé ce soir ce qu'il a fait. Je l'aime bien cette équipe. Elle est agréable. Et tous les matchs, même tous les 3 jours dans une décadence infernale, elle a toujours tout donné. J'aime bien ça. Et puis le troisième point, moi j'ai cru que franchement Monaco, on pouvait peut-être compter sur eux petit à petit dans la deuxième partie de saison, qu'ils allaient finir par se redresser parce qu'il y avait des bons joueurs dans cette équipe. Mais je me demande si je badine une connerie là, parce que c'est d'un niveau, mais c'est totalement affligeant quoi. Je sais pas si c'est Jardim qui est largué, les joueurs qui veulent plus jouer, qui est pas de défenseur, je veux bien, mais même au milieu et devant là, c'est n'importe quoi.
Jérôme, tes trois points.
Bah, le premier, bon, je vais évacuer le premier match parce que je l'ai regardé, je me suis fait mal en le regardant, donc je préfère même pas en parler.
T'es fait mal, c'est-à-dire ?
Peu importe, j'ai regardé.
Parce... Il a eu mal à son football.
Ouais, tu veux que je te dise comment. Parce que ça me fait pas. C'est pour ça que je te dis ça. Attends, parce que moi, je me suis vraiment fait mal.
Oui, ouais. C'est ces trois points.
Mais non, mais.
Parce que.
Et oui, mais c'est ces trois points.
Donc, bah, donc fait, mon premier point sur le match du soir, je vais parler positif. Lille, totalement dans la confirmation de ce qu'on ressent et ce que je disais dans mon émission vendredi. Pareil, c'est que Lille sera là et va jouer sur tous les tableaux et c'est bien. C'est-à-dire Coupe de la Ligue, Coupe de France et championnat. Et le deuxième point, Monaco, la mascarade, elle continue. C'est-à-dire à mascarade, je mets en avant les joueurs qui étaient des grands joueurs quand ils sont arrivés à Monaco, qui sont des petits joueurs aujourd'hui, avec un petit état d'esprit, et qui sont plus du tout au niveau. Donc ceux-là, il faut plus qu'ils mettent le maillot de l'AS Monaco. Et le troisième, ça relie ce que je te disais, c'est Jardim, out, dehors. C'est fini, parce que Jardim, on a beau dire, il a relevé l'équipe là ces derniers temps. Non, c'est Slimani et Ben Yedder qui ont relevé l'équipe ces derniers temps. Et là, le problème, c'est qu'il est en train aussi de les tuer les deux, parce que quand tu vois le match de Slimani aujourd'hui, entouré des joueurs qui l'avaient autour de lui, c'est catastrophique. Et Jardim, c'est le responsable de cette mascarade. Donc Jardim, il faut trouver une autre solution. Il faut pas qu'il finisse l'année, parce que l'année de Monaco, elle est morte déjà. Parce que
je suis pas sûr que tu puisses les relever là.
Non, mais elle est morte l'année. Non, mais l'année de Monaco est morte, Daniel. Mais là, maintenant, il faut préparer le futur. Et le futur, ça passe par un autre discours, un autre mode de management. Il a fait des choses incroyables à Monaco, mais depuis l'année dernière, quand il s'est fait virer, et depuis qu'il est revenu, c'est n'importe quoi.
Évacuons donc le Reims Montpellier. Donc Daniel, pourquoi est-ce que tu t'es fait plus mal que Jérôme ?
Parce qu'en fait, je me suis endormi, mais je me suis endormi pas genre sieste, mais genre nuit. Et quand je me suis réveillé, j'étais vraiment. Mais et là encore, je pense que je vais pas être très en forme parce que je suis très fébrile.
Ah bon ?
Ça t'arrive pas de dormir, mais quand il faut pas dormir, j'ai un décalage horaire.
Non, c'est vrai.
Et ben là, je suis voilà, ça m'a fait ça ce match. Ça m'a fracassé quoi.
Ce match était une purge.
C'était
purge
terrible.
Les niveaux.
Le terrain.
Écoute, hier, on parlait du terrain, de l'ambiance dans le stade et tout, des ambiances. Regarde, t'as un match de merde sur le terrain. On est d'accord. Dans les tribunes, il se passe tellement rien parce qu'il y a personne à cause des grèves ou.
Déjà, attends. En temps normal, pardon, mais à Reims, c'est jamais plein. Tu mets n'importe qui, c'est jamais plein.
Oui, mais il y a une petite ambiance sympa. Il peut y avoir une ambiance sympa.
Non, jamais en fait, tu sais.
Si à Reims, oui.
Non, écoute. À Reims, c'est pas le stade le plus ouf.
Non, mais tu peux avoir une ambiance sympa à Reims. Je suis désolé. J'en ai fait des matchs à Reims en Ligue 2 ou en Ligue 1.
Tu vois, je t'avais dit que je voulais parler de ça. Mais c'est pour te dire, tellement j'étais endormi, j'avais oublié que je voulais en parler. Puisqu'il me relance sur cette histoire-là. Déjà, faut complètement arrêter cette histoire-là. Soi-disant, je veux pas les stades avec l'ambiance. Hein.
Est-ce que j'ai dit ça moi ?
Ça c'est faut arrêter tout de suite.
Pourquoi tu dis ça ?
Non, mais parce que hier soir, je sais plus quand c'était là qu'on en a parlé, dimanche soir après ce qui s'est passé à Saint-Étienne et tout, c'est absolument pas le sujet. Hein.
Pourquoi on parle de ça en fait ?
Parce que une dit, tu vois, tu vois toi qui disais que tu m'as dit là à l'instant.
Mais sur les l'ambiance dans les tribunes.
Mmh. Mais l'ambiance dans les tribunes, encore une fois, c'est pas ça qui fait que le spectacle va être meilleur sur le terrain. Faut pas mélanger tous les problèmes.
Ça peut
pas mélanger
tous les problèmes.
Et surtout, faut pas se raconter d'histoire. Et faut pas.
Bah là, il y a personne dans les tribunes. Terrain pourri.
Voilà. Et faut pas mitonner. Mais Jérôme, il faut pas mitonner sur l'ambiance dans les stades en France. À part deux, trois endroits où si c'est des gros matchs, ça bouge un peu. La plupart du temps, c'est mort à peu près partout.
Daniel, il y a quand même quelques stades où c'est globalement très régulièrement animé.
Hey, Daniel,
d'accord.
Monaco, j'allais dire. Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Rennes, déjà Strasbourg.
Nantes.
Je pense que vous vous racontez des histoires.
Ben non, on se raconte pas d'histoires.
Je vais te donner un exemple. Marseille l'année dernière,
mais
c'était mort.
Mais on va
non Marseille attention Marseille c'est spécial
mais Marseille parce que c'est
mais Marseille des... quand c'est grand match il y a pas mieux que Marseille quand c'est
mais
grand match
exactement mais là cette année il y a un engouement l'année dernière il y a rien on est d'accord
donc à cause de quoi il y avait rien
à cause du sportif, rien, évidemment.
Que, d'accord, okay.
Parce qu'il
se passait rien, que les mecs en avaient marre de ce qui se passait sur le terrain.
Mais pourquoi on parle
et
de
la
ça
gestion et tout ça.
À Montpellier, on n'en dit rien. Voilà.
Mais c'est pas que ça.
Bah, ah bon,
c'est d'accord. Pas que ça, non.
Ah,
c'est
d'accord,
pas
que d'accord, ça. D'accord. Non. Tu veux qu'on parle d'un stade comme celui de Bordeaux, par exemple?
Ah bah Bordeaux,
qui est toujours au trois quarts vide, avec la fidélité des ultras évidemment.
Mais en fait, où tu veux en venir, en fait,
je sais pas.
Où tu veux en venir?
Que la priorité. Parce que suite à ce qui s'est passé dimanche, il y a beaucoup de gens qui se sont émus de ce que j'avais dit. Ce que je trouve absolument, mais d'une, il n'y a pas plus malhonnête que de dire ça à mon égard, sachant que dans l'after depuis plus de 10 ans, on a défendu tous les supporters.
Mais dire quoi en fait ?
On les a invités tout le temps pour parler. On a été les seuls à faire ça en permanence. On est l'émission qui a plus donné la parole à tous les débats. On les a soutenus.
D'ailleurs, on va continuer
tout le temps.
Après-demain.
Et jeudi, on va faire une émission extraordinaire qui a jamais été faite autour des supporters. En m'entendre dire derrière, ouais, Riolo, tu soutiens pas les supporters ou t'as fait chier à cause du truc des fumigènes.
Mais qui
mais c'est
dit ça?
Malhonnêteté.
C'est qui t'a dit ça? Bah, c'est encore Twitter, c'est les réseaux
plein de
sociaux.
Non, mais c'est là où les supporters s'expriment.
Mais Daniel, donc, on t'a déjà dit
comme c'est absolument malhonnête. Aussi. Comme c'est absolument malhonnête. Ouais, mais beaucoup de supporters. Non. En l'occurrence, j'ai échangé cet après-midi. D'accord. Avec le leader des supporters bordelais.
D'accord.
Donc, il représente quand même quelque chose.
Oui, Florian Brunet, qui est venu plusieurs fois dans l'after.
En plus, il défendait ses amis stéphanois, puisqu'on sait que les Bordelais sont avec les Stéphanois.
Bien sûr.
Bon, échange de très bonne facture, parce que c'est un gars plutôt sympa, il faut bien le dire quand même. Et il dit, Riolo, le bien-pensant ou le machin, rapport à l'histoire de Saint-Etienne. Je lui dis, attends, Florian, tu viens me dire ça à moi? Nous, on t'invite quand tu veux, tu parles de tout ce que tu veux, de tous les problèmes des supporters. On invite tous les supporters de la terre entière. On soutient tous les supporters depuis des années. Et un soir où on émet une opinion sur une connerie, parce que c'est une énorme connerie qui va aboutir sur une sanction stupide, à savoir tout le monde privé de foot à Saint-Etienne, dans une attitude totalement radicalisée, comme l'a dit Kyo tout à l'heure à juste titre. Effectivement, il y a de la radicalisation absolument partout, comme elle l'est d'ailleurs présente dans toute notre société. Et parce que on s'exprime sur le sujet. Tu viens dire, toi, je suis obligé de parler de lui parce que lui me parle. Donc déjà, c'est à souligner, je le mets en avant, c'est plutôt sympa de sa part. Tu viens dire, Riolo, le bien-pensant ou le mec contre les supporters? Non. Pas l'after, pas moi, pas Gilbert. Ça fait plus de 10 ans qu'on a tout fait. Il n'était pas là il y a 10 ans. Qu'on a tout fait, tous les dossiers avec, on a invité les flics, les leaders des supporters, l'ANS,
Daniel,
tout le monde. Et les mecs, ils viennent casser les couilles pendant toute une journée.
Parce que
sur Twitter,
peut-être ce que t'as dit hier.
Je donne rendez-vous jeudi sur ce sujet.
Ou dimanche soir, ils étaient en décalage et ils sont pas d'accord avec toi.
On relance pas.
Ça arrive.
On écoute Der Zakarian pour conclure sur ce. Sur ce somptueux Reims Montpellier.
Dire bien pensant ou contre les supporters. Parce que
ce somptueux
Reims
Montpellier, attention, Der Zakarian a l'explication du pourquoi le match était d'aussi faible qualité.
Vas-y.
Et attention, les explications du coach de Montpellier.
C'est pas le terrain, c'est la texture du ballon, je vous dis, c'est une catastrophe de nous faire jouer avec des ballons comme ça. C'est pas un bon ballon. C'est le ballon de plage, c'est texture du ballon, plastique comme ça, c'est catastrophe. On le voit en entraînement, quand c'est pas mouillé, quand c'est pas. C'est déjà compliqué. C'était pas un bon match, un grand match. On a perdu.
Merci.
C'est clair. Est-ce que l'autre fois, je me souviens, on parlait de la Coupe de la Ligue, c'était une bonne idée de la continuer et tout, mais c'est sûr que si tu la continues et si tu vois ça. Parce que les arguments qu'on mettait en avant pour la continuer, ils sont bons.
Excuse-moi, tu mets un Reims-Montpellier de Ligue 1 à la même heure, en décembre, avec le même terrain, ça donne la même chose que la Coupe de la Ligue. Alors peut-être un meilleur ballon, peut-être. Ça, je veux bien.
Non, mais ça, la même chose. Je suis d'accord avec toi.
Bah oui.
Mais tu ajoutes une compétition pour proposer une double merde. Donc déjà, t'as du mal à en manger une. Si on t'en fait manger deux, c'est quand même compliqué. Tu comprends?
Lille, c'était pas mal. On va en parler.
Non, Lille. Bah, voilà. Lille, tout seul, oui. Monaco, ça va nous conduire à les tailler, à dire que ça va pas et tout. Lille, oui, moi j'ai bien aimé. Je dis cette équipe effectivement fait passer beaucoup de, je sais pas, c'est un bon sentiment quand tu la vois jouer. T'as l'impression que
l'équipe
se donne, c'est chouette à voir, quoi. Voilà.
Salut Paul.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme.
Salut Paul.
Bon bah moi je crois que la Coupe de la Ligue, ça intéresse Lille. Hein. On met l'équipe qu'il faut. Bah quelques exceptions près, mais enfin globalement t'as Osimhen, t'as Ikoné,
Moi j'ai pas vu Reims Montpellier. Forcément je regardais le match du LOSC.
Oui c'était avant Reims Montpellier en même temps. T'aurais pu le regarder.
Il
n'était
pas au courant.
Oui non mais
c'est pas grave.
Vie à côté.
Non mais t'avais forcément mieux à faire. T'inquiète.
Non écoutez j'ai pas vu Reims Montpellier. J'ai vu LOSC, enfin Monaco Lille, mais. Enfin, la manière dont vous parlez du premier, bah, du coup, je vais peut-être réviser mon jugement parce que j'allais quand même dire que le match de Monaco-Lille, c'était quand même pas un match incroyable. On avait quand
même
On avait l'impression que les deux équipes seraient réservées pour samedi, parce que samedi, il y a trois points à aller chercher.
Oui, et c'est Monaco-Lille, samedi.
Exactement. Après, voilà, la première mi-temps était quand même une bouillie infâme. La seconde était un peu meilleure. Les deux équipes ont commencé un peu à jouer. Par contre, moi, ce qui me, enfin, voilà, quelques points quand même de satisfaction, c'est que on gagne encore à l'extérieur. Donc, je vous avais appelé après le match de Lyon, je vous avais dit que voilà, il y avait un déclic qu'on avait peut-être eu avec ce match. Là, j'ai quand même l'impression que voilà, on confirme. En parlant de confirmation, il y a Ikoné qui revient comme vraiment bien.
Très bon match d'Ikoné. Homme du match, Ikoné, on peut le dire.
Ouais, on peut le dire.
Mais depuis quelques matchs, hein, il est revenu bien.
Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il est en joueur libre. Il est intéressant.
Ce qui est bien, c'est que par rapport à son début de saison où il était dans la difficulté, c'est qu'il prenait le ballon systématiquement. Il voulait faire des différences. Et il s'entêtait dans la
percussion. Il a dû digérer un peu tout ce qui a été dit bien autour de lui, l'équipe de France. Je pense qu'il a eu un contre-coup de bonnes nouvelles, on va dire.
C'est normal. De toute façon, c'est arrivé à tous les joueurs. Quand tu découvres le niveau international, forcément, en plus, quand c'était pas prévu, parce que lui, c'était pas prévu, bien sûr que tu peux avoir une période où tu te sens supérieur aux autres, où tu t'enflammes un petit peu plus que d'habitude. Et lui, il a eu cette intelligence-là assez vite, de retomber vite les pieds sur terre, parce que Galtier, il y a eu un vrai échange, il l'a mis de côté. Il l'a mis remplaçant, ça l'a vexé. Il a répondu sur le terrain en faisant des bonnes rentrées en Ligue des Champions contre Valence. Et puis derrière, il retrouve de la fluidité. Vraiment, il a une qualité, il a une vision du jeu qui est supérieure à la moyenne. Il a une qualité de pied en plus. Là, il t'invente deux passes. La première, elle est décisive sur Osimhen. Il en met une autre sur Rémy, la première action qu'il a quand il se retrouve face à Subasic. Vraiment.
Alors, la semaine dernière, quand on a croisé Alain Giresse à l'aéroport, là, qu'on revenait de Lyon, il m'a dit un truc, et je trouve qu'il avait parfaitement raison. Ses stats de passes décisives, c'est vraiment pourri. Parce qu'il dit.
Plus le temps qu'on le dit.
Parce qu'il dit. Il dit en l'occurrence, il connaît, c'est une passe décisive.
Oui, bien sûr. Bien sûr,
c'est une passe décisive. En fait, il faudrait lui compter. Si l'autre après rate un truc énormissime,
ce qui était le cas.
Et des fois, il y a des passes décisives qui en sont pas parce que le mec a fait un contrôle, se met sur son pied. Tiens, c'est ce concept-là est souvent très discutable. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est une passe décisive.
Il y en a qui s'amusent à compter l'avant-dernière passe. T'as remarqué ça.
Mais des fois, l'avant-dernière passe, elle est plus difficile et plus importante.
Oui, mais les trois quarts du temps, l'avant-dernière passe, ça sert à rien.
En effet, là, je rejoins. C'est Alain Giresse qui te disait ça.
En matière de passe.
Et voilà, donc il sait de quoi il parle, mais c'est vrai que c'est frustrant pour le passeur quand t'as l'impression, en effet, d'avoir inventé une passe que personne n'avait vue. Et là, c'est le cas de Ikoné quand il lance Rémy. Rémy rate l'immanquable devant. Il a juste à ouvrir son pied,
il l'enroule un peu trop.
Ouais, voilà. Alors que c'est comme un pénalty, hein. Vraiment, il est face à Subasic, il a plus qu'à cadrer.
Il en met deux ce soir, donc du coup, on peut pas trop le
dire. Non. Mais là-dessus, moi, je mets pas Rémy, là.
Il peut rater
des choses. Mais après, c'est vrai que la passe, tu l'as ou tu l'as pas, tu peux inventer. Et Ikoné, il est exactement là-dedans et il a repris les bases. Et c'est bien parce que s'il continue comme ça, déjà, il va faire gagner son équipe et lui, il va reprendre encore plus de valeur et tu verras que et peut-être qu'il récupérera le niveau international assez vite.
Mais du coup, moi, ce que j'ai quand même bien aimé ce soir, c'est qu'on avait l'impression que voilà, sur chaque accélération, on pouvait mettre très très mal Monaco. Alors après, est-ce que c'est parce que la défense de Monaco, c'est clairement pas l'assurance sociale ou la sécurité sociale?
Je pense qu'il y a un peu de ça, oui.
Il y a un peu des deux, mais en tout cas, j'ai bien aimé le côté on accélère, on peut faire très mal.
Et ils ont du jeu en fait. Ils ont du jus, les Lillois, ils ont beaucoup joué. Alors encore une fois, tous ceux qui se plaignent, on joue tous les trois jours là avec des champions, oh là là, catastrophe et tout. Alors c'est sûr qu'ils sont éliminés, Lille, mais ils ont quand même joué dernièrement à Chelsea. Même si l'équipe a tourné, il faut revenir, il faut faire le déplacement. À l'arrivée, à chaque fois qu'ils font des sorties en ce moment, et c'est pour ça qu'ils sont bons, ils ont du peps. Tu sais, quand tu vois le match de Renato Sanchez, là il est côté gauche aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il fait un grand grand match, mais dès qu'il prend le ballon, tu sens que putain, il a du jeu, quoi. Il a de l'énergie. Et ça montre quand même que physiquement, ils sont bien. Ils bossent bien à Lille. De toute façon, on le dit depuis un certain temps. Avec Galtier, ça bosse très bien. Et c'est pas par hasard qu'ils sont sur une bonne série. Tu verras. Lille, ils finiront quasiment sûrs sur le podium cette année.
Paul, merci beaucoup.
Juste un
merde, ça veut dire que c'est mort pour Lyon.
Tout petit point.
C'est sûr. Ouais.
Oui, Paul.
Non, juste un petit point. Je suis très content que Léo Jardim ait été mis dans les cages. Il a fait un bon match.
Ouais.
Je trouve qu'il a fait un bon match. Il a raté un penalty, même si le penalty était mal tiré.
Ah, mais voilà, il était très très mal tiré.
ça va lui donner de la confiance et je pense qu'il a du talent ce second gardien. Voilà.
Très bien. Moi, c'est son nom qui me déstabilise parce qu'à chaque fois. Ouais, faire jouer Léo Jardim contre Monaco.
Ouais, c'est vrai,
c'est déstabilisant. Merci, Paul.
Slimani tire le pénal, il y a un énorme trou, quoi. Là, à l'endroit du pied d'appui.
Ouais.
Il y a un trou. Je sais pas pourquoi il a pas fait gaffe. Moi, une fois, ça m'est arrivé, ça, dans un match qu'on a fait contre les filles à Clairefontaine. Un BO. Il y avait un énorme trou et en fait c'est la connerie en fait c'est de pas faire gaffe à ça
tu sais
et de pas aller le modeler quoi.
Tu connais la stratégie de coach Courbis sur les séances de tir au but.
Ouais, je sais, il nous l'a dit plein de fois.
Lui il te dit il faut toujours faire tirer les gauchers en dernier parce que comme tous les droitiers prennent leur appui au même endroit, il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Ouais, il y a toujours un trou. Non, alors que le gaucher il a pas de trou. C'est pour ça que Jérôme, t'avais pas de trou toi.
Et attends, déjà et Daniel vient de te dire il faut tasser avant.
Faut faire attention, bien sûr, le rond
t'es pas obligé de le mettre il faut qu'il touche
le rond.
Bah oui,
tu peux mettre un peu en avant, un peu derrière, ça dépend, mieux mettre un peu derrière même.
Et bon après ça n'empêche que même s'il y a un trou quoi que ce soit, Slimani quand tu vois déjà rien que l'attitude quand il vient tirer, c'est à l'image des monégasques. Alors je veux pas lui tomber dessus à Slimani parce que franchement,
excusez-moi, il y a une référence de Slimani ce week-end. Vous avez vu le pénalty de Charbonnier?
Mais Charbonnier c'est dans la tête parce
incroyable.
Que c'est pas le premier qui
rate.
Faut qu'il arrête alors.
Bah exactement.
Qu'il se débloque. Mais
c'est tellement un exercice mental, pédale technique, mais aussi mental que quand t'en rates un, t'as le pied qui tremble derrière.
Alors, on remercie Paul, bien sûr.
France, on nous a dit que les séances de pénaux c'était des loteries.
Ah oui,
on a grandi avec cette culture-là dans ce pays. J'aimerais le dire aux jeunes.
Exactement.
Plein d'éléments comme ça mis bout à bout ont façonné notre culture, la culture football de ce pays.
Parce qu'on a tellement perdu de séances de penalty, de tir au but, que tu te dis d'un moment
c'est la loterie. Je l'entends encore certaines fois dans les commentaires.
Bien sûr.
C'est une loterie, je l'entends. Qui le dit?
Le pire, c'est que à force de le dire et de le répéter, les coachs, il faut pas bosser ça.
Ah oui.
T'as des coachs, mais là, ça sert à rien de le bosser puisque c'est une loterie.
Alors je t'explique, Gilbert.
Bosser un pénalty. Jeannot dit ça parfois.
Non mais
une loterie. On n'est pas du tout d'accord
sur là-dessus. C'est une connerie sans nom. Moi, je te le dis. Parce que tu peux en mettre 10 sur 10, 20 sur 20 aux entraînements quand t'as personne, t'as pas de pression.
Non, il faut répéter le geste. Après, évidemment que c'est pas pareil. Tu sais que c'est pas pareil, mais il vaut quand même mieux en avoir tiré quelques-uns.
Le geste de la frappe, tu l'as ou tu l'as pas, Daniel. Ce que je veux dire,
si
le mec a les pieds carrés, t'as beau le faire travailler et tout ça. En plus, avec la pression, le côté mental, quand tu viens tirer face au gardien, où là, c'est une balle de match quasiment, je peux te dire tu perds un petit peu de précision.
Mais là, je vais apporter une correction, tu vas me dire, mais si t'es en compète avec tu sais qu'il y a des matchs genre en Coupe du Monde ou à l'Euro qui peuvent se finir en péno, toi là t'es en train de me parler du cas de figure où c'est toi ou c'est un mec qui les tire d'habitude.
Ouais.
Mais si tu sais que tu vas avoir 5 tireurs et parfois plus,
moi je pense qu'il vaut mieux jamais tirer avant.
Il vaut mieux quand même que le mec se retrouve à faire 2-3 exercices histoire de si après le contexte sera complètement différent.
Ouais,
il vaut mieux faire des séances d'entraînement.
Ouais, mais en général,
même pour ton gardien et tout, vaut mieux qu'il
général, même quand tu joues pas des compétitions comme tu viens de le dire, en fin de séance, t'as toujours un petit peu des petits jeux par moment.
C'est toujours mieux.
Et tout le monde répète.
C'est toujours mieux.
Après,
et c'est mieux que les gardiens soient aussi un peu canardés là-dessus pour bosser.
Mais t'as la technique ou tu l'as pas. Il y a des.
Je rappelle l'affaire Trezeguet 2006. Certains la connaissent, d'autres pas. Veille de la finale, il tire 5 tirs au but dans la lucarne. La fameuse lucarne où, du match, ça se termine sur la barre. Voilà.
Ouais.
Et à l'entraînement, 5 piles dans la lucarne.
C'est bizarre qu'elle ait touché la barre. Tu vois, parce que quand je te disais la pression, et encore plus sur une finale de Coupe du Monde, t'imagines le but, il est plus petit. Tu sais, quand tu poses le ballon et que t'as les supporters en face derrière qui te sifflent, qui te mettent le laser dans la tête, il faut avoir les coronesses pour
dans quelques instants, Monaco.
Los huevos, mon gars.
Jérôme est remonté après Jardim. Cédric sera avec nous au 32-16 dans quelques instants. Et puis, tiens, les gars, on a un super cadeau jeudi soir. Alors, je vous préviens dès maintenant parce qu'il faut vous inscrire dans notre célèbre quiz de l'after. Jeudi, on va vous offrir un truc assez inédit, c'est-à-dire la possibilité tout simplement de rencontrer les joueurs du PSG.
Ah oui?
Ouais, c'est sympa quand même, non? Alors je donne les détails. C'est grâce à notre partenaire Deliveroo. On vous fait gagner ça, donc dans le quiz de l'after.
Du PSG.
Rencontrer les joueurs du PSG. Si vous gagnez le quiz jeudi, quiz dans l'after toujours de méga haut niveau. que j'ai gagné brillamment hier soir d'ailleurs, eh bien, vous pourrez remporter le droit de voir les joueurs du PSG. Donc pour ça, il faut vous inscrire. Il faut envoyer after par SMS au 732-16. After par SMS au 732-16. Ça, je ne sais pas si c'est au Parc des Princes, si c'est au Camp des Loges.
Est-ce qu'ils sont au Parc des Princes et le mec apporte à bouffer ?
La rencontre, ce sera en janvier.
Voilà. Si c'est au camp des loges, attention, alors prévoyez carte d'identité, passeport, permis de conduire, fouillage, comme dans les avions, là, tu prends fouillage.
Le portique.
Ouais, le portique.
En plus, les deux participants au quiz, le premier pour avoir des joueurs, et, en privé donc, et le perdant, on remportera un maillot du PSG. Donc voilà, c'est pas mal. L'histoire, on est pas mal.
Ouais,
j'espère qu'on pourra faire ça bientôt avec d'autres clubs, évidemment. Il n'y a pas que le PSG dans la vie. Dans quelques instants, ouais, Monaco.
Les Leroux, ils sponsorisent principalement le PSG.
Ouais, mais il y a d'autres sponsors de l'autre club. Ça peut donner des idées.
C'est le concurrent à l'OM.
Bah, que le concurrent vienne aussi.
Non, mais, c'est vrai. Paris, pourquoi Paris ? Parce que tu as du mal à les croiser. Aujourd'hui, c'est compliqué.
Ah non, mais il y a des supporters de Reims qui veulent voir leurs joueurs. Pourquoi pas ?
Non, mais Reims, tu peux. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais s'ils ont envie de les voir, c'est plus facile de les voir à Reims ou à Strasbourg.
Quand tu connais les bons endroits à Paris, Daniel.
Tu penses que le supporter de Reims, il croise son joueur à la boulangerie ?
Oui.
Je donne les endroits à Paris pour voir les joueurs.
Excuse-moi, mais à Paris, si tu veux voir les joueurs, tu peux les voir aussi.
Bah oui.
Après, il faut être admis dans les établissements nocturnes où ils vont. Mais ils y vont pas tous, t'en verras que quelques-uns.
Ils achètent leurs baguettes quand même, non ? Non ?
Qui achète encore une baguette ?
Mais il n'y a que toi qui.
Personne n'achète de baguettes.
Les hier d'arriver. Moi oui.
Vous allez acheter vos baguettes.
Mais bien sûr. Pourquoi t'as des domestiques, attends, toi ?
Moi je vais jamais acheter de baguettes.
Mais attends,
déjà parce que je mange pas beaucoup de pain.
Parce que toi tu manges rien, parce que t'es un asset, parce que t'es un sportif de haut niveau.
Donner du plaisir aux gens. Moi je vais acheter mon pain. Je croise des gens.
Moi je parlais des joueurs de foot.
En tout cas, les rares fois où je suis allé acheter du pain, j'ai jamais croisé de joueurs de foot. Mais bon, ouais.
Non, moi, à Meudon, il me voit tous les jours.
Après, si je pouvais avoir des gens, pour me faire les courses, il n'y a pas de raison, j'en profiterais.
On a toujours un qui
j'aurais rien contre, hein, mais malheureusement, je peux pas encore. Mais bon.
Toujours un qui me laisse un mot. Tiens, tu passeras le bonjour à Daniel. À qui ? Bah, ça va pas.
Et plutôt tradition ou au niveau de la baguette ?
Bah oui,
ça dépend. Si elle est chaude, si j'ai le choix, je prends tradition. Mais des fois, la baguette est plus fraîche que.
Bah maintenant, il y a plein de boulanges, ils ne font que les tradis, parce que ça, comme ça, tu casses 20 centimes de plus.
Et pam !
Petite arnaque, ça.
Ouais, c'est vrai. C'est 1,20€.
Et ouais.
Allez, à tout de suite dans l'after pour parler de Monaco avec Cédric au 32-16.
Et c'est moi qui achète le pain tous les jours. C'est entre 1€ et 1,10€. Bon, après, ma notoriété fait que des fois, il me l'offre.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rotel et Daniel Riolo, bien sûr. L'after est là jusqu'à minuit. On ira en Allemagne. Hein. Tout à l'heure, retrouver Paulo Breitner. Il y a eu un Dortmund-Leipzig de feu, 3 partout. Tout à l'heure, mais pour l'instant, on parle de Monaco avec Cédric au 32-16. Salut Cédric.
Bonsoir, messieurs.
Salut Cédric.
Cédric, je crois que tu es légèrement contrarié et énervé ce soir. On t'écoute.
Ouais, je vais rester poli parce que c'est pas dans mon éducation de moins Lyon qui ont, c'est catastrophique. Il n'y a pas de fond de jeu. Et puis, moi, je veux dire, on peut pas dire que Lille ait fait un beau match tellement le niveau de Monaco était nul, catastrophique. Il n'y a pas de fond de jeu. Et quand on regardait, j'ai regardé le match à la télé, et Dieu merci, il y a eu les grèves, parce que j'habite en Normandie, j'ai failli aller voir le match, et mon train a été supprimé, je remercie la grève pour une fois.
Donc, tu remercies la grève.
T'as failli faire quoi comme destination en train, dis-moi ?
Normandie, Monaco.
Bah, Normandie. J'ai failli.
Wow, c'est combien de temps, ça ?
Bah, en fait, déjà, il fallait que j'aille à Paris.
3 jours.
Et puis après, Paris-Nice, et puis voilà, mais j'avais mes billets de train, et heureusement, mon train a été supprimé, et je devais emmener mes enfants pour la première fois, parce que voilà, ils rataient l'école demain, mais j'ai honte quand je vois ça, j'ai honte. Et
le
passé un beau match. Mais regardez, moi, le ballon, on est les champions du monde de la passe latérale. À nos deux arrières d'ailes, ils ont eu le ballon.
Et après, champion du monde de la passe ratée en retrait aussi.
Mais ça, j'en parle même plus. Moi, c'est récurrent, la défense. Quand j'entends l'interview de Petrov avec Mohamed Bouafsi qui dit qu'ils ont absolument pas l'intention de recruter en défense, qu'on continue. Qu'on continue comme ça. Moi, c'est honteux. À la limite, il fallait mettre l'équipe de CFA2 et puis c'est tout. Moi, j'ai honte. Honnêtement, j'ai honte. On a le championnat.
T'es comme Jérôme, t'as pas le départ du coach ou pas ?
Ah ouais, moi, honnêtement, malgré ce qu'il a fait, qu'il s'en aille parce que ça se touillicitait sur le bord de touche, déjà, ça m'énerve. On perd 2-0 à la mi-temps. Il n'y a pas de prolongation. Il fait son premier changement à la 59e minute.
Il a terminé quoi,
Fabregas,
4-9 ?
Stop. Fabregas qui l'arrête. Voilà. En plus, 4-9. Le ballon sautait les lignes. Moi. Le petit Zagré, il est rentré. Le pauvre, moi. Parce qu'on dit que c'est peut-être un crack. Il a peut-être quelque chose. Mais là, non, c'était. C'est le seul que je vais tirer, que je vais sortir du lot. Mais c'est sans nom, moi, le spectacle. C'est pas que Lille a été bon, c'est Monaco qui a été nul. C'est tout.
Ouais, non mais de toute façon, tu sais, c'est simple, le constat, tu peux le faire aussi sur les victoires qu'a eu Monaco, parce que moi je les vois les matchs aussi, hein, ouais. Et plus spécialement de Monaco, bien sûr, ils ont redressé la barre au niveau des résultats, mais en termes de contenu de match, il y a beaucoup de manque, et surtout t'es dépendant. Tu l'as dit, Golovin, c'est un super joueur, vraiment. Dès qu'il touche le ballon, il peut se passer des choses. Et encore aujourd'hui, dans la mascarade, il y a que lui qui surnage. Et puis, il était sauvé aussi avec ce duo devant, Ben Yedder Slimani. Mais sinon, tous les autres, il a changé Jardim. Moi, je mets en avant Jardim parce qu'il a changé de système. Alors, d'accord, tu joues à trois défenseurs centraux pour combler les lacunes défensives, du moins de vitesse des trois. On l'a vu quand il joue à deux, mais c'est catastrophique ce soir. Alors je parle même pas techniquement, mais au niveau tactique, les deux là, que ça soit Badiachil, 60 millions d'euros, Badiachil, c'est ça, hein, qui était annoncé. C'est ce qu'on nous avait dit transfert au mois de juin ou juillet.
Oui, ça, ce genre d'annonce fantaisiste.
Oui, non, mais soi-disant qu'il y a eu des offres à cette hauteur là. Mais putain, vendez-le, 60 millions d'euros. Mais tu rigoles ou quoi? Alors je veux bien qu'il ait un petit peu progressé depuis le début de l'année. Avec A3, ça l'a rassuré un peu. Mais quand tu joues avec Jemerson, franchement c'est une catastrophe. Ballo Touré qui est remplaçant aujourd'hui, qui est fait jouer sur le premier but, je me demande, il est encore ailier gauche l'autre alors qu'il joue arrière gauche, il s'étonne parce qu'il joue pas. Je peux te dire que c'est des attitudes. Aguilar, moi je veux bien Aguilar à Montpellier, magnifique. Franchement, je disais, c'est une super recrue pour l'AS Monaco. Aguilar, Lecomte,
vient de Montpellier. Le petit Bolivien, on le reconnaît.
Mais Aguilar, sur le premier but, tu le vois, il lâche, il connaît, il est au marquage sur lui, il connaît, il fait un crochet extérieur. Hop, il prend 2 mètres de recul, il dit, ah bah, démerdez-vous les autres, c'est à vous de défendre. Non, mais attends, mais c'est pas possible, c'est ça, ces attitudes-là.
On compte trop sur les autres.
Après, je te laisse la parole. Mais quand tu joues avec un milieu terrain comme ça, l'entraîneur, je sais pas, moi je. Écoute, j'ai passé des diplômes d'entraîneur, hein, j'ai pas tous mes diplômes pour entraîner au niveau professionnel, mais quand tu joues avec trois milieux de terrain, une pointe devant la défense qui est Bakayoko, Fabregas et Golovin un peu plus haut. L'essentiel, c'est quand même d'assurer, quand tu sais que Fabregas et Golovin, quand t'as pas le ballon, ils vont avoir du mal à aller le récupérer dans les pieds des adversaires et avoir ce volume qui est essentiel quand tu joues au haut niveau, surtout dans le milieu de terrain. Au moins, tu dis à Bakayoko, tu restes dans l'axe parce que tu protèges la défense. Bakayoko, il faisait du Patrick Vieira, il prenait le ballon, il allait transpercer les lignes avec le ballon, il se retrouvait aux abords de la surface et après, il était incapable de revenir. Mais quand t'es entraîneur, au bout d'un quart d'heure, tu le vois déjà, que t'es à chaque récupération du ballon de Lille, c'était un danger. Ils l'ont eu 30, tu sais, Daniel et Gilbert, ils l'ont eu 30% en première mi-temps, les Lillois, le ballon. 30%. Ils se sont créés combien de situations sur le but de Subasic? À chaque fois qu'il récupérait le ballon, il transperçait les lignes. Et ça, c'est pas possible. C'est un problème d'entraîneur.
Bon, bah, c'est vrai que le constat est donc dur pour Monaco. Et pourtant, il y a quand même des joueurs, quand tu es entre Slimani, Ben Yedder.
Slimani et Ben Yedder, en fait, c'est là.
Et Golovin, bon, voilà.
Ils nous ont apporté, mais c'est l'arbre qui cachait la forêt, parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, on a la même défense que l'année dernière qui a pris 60.
Ça, c'est sûr que Maripane, je pense que c'est la palme du recrutement le plus pourri.
Et pourtant, malgré la prestation de ce soir, est-ce que tu mets la mallette à Rocco sur le fait que Lille gagne obligatoirement samedi soir à Louis II?
Non. Non, parce que si Slimani Ben Yedder est sur un grand match.
C'est toute la folie de notre football.
Moi, je prends pas le risque avec Rocco.
Ça, c'est la folie de notre football, c'est qu'aucun de nous est capable de mettre la mallette sur Lille samedi soir.
Alors, pour conclure, Gérard Lopez dit patron lillois.
Tu passes pour un con tous les soirs.
Pourquoi?
Parce que Rocco, il a tapé à la porte chez toi déjà.
Oui, mais il n'a pas pu rentrer, t'inquiète.
Gérard Lopez a dit si on fixe l'objectif cette saison, on veut se requalifier en Ligue des Champions et remporter un titre. Donc, pour nous, la Coupe de la Ligue est un objectif.
De toute façon, il la joue à fond, hein, voilà l'équipe qu'il a mis sur Gérard le papier. Lopez. Et moi, j'adore ça. T'imagines qu'il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de on joue tous les trois jours, la Ligue des Champions, ça nous a crevé et tout. Il a mis la meilleure, il a fait souffler des mecs, Soumaré au milieu de terrain, il a mis Tcheka.
Et demain, il y a les autres affiches demain.
Il y a encore 6 matchs demain, il y a Le Mans PSG par exemple.
Non, mais ça, Le Mans PSG, comme c'est le match du soir, je savais.
Il y a Lyon-Toulouse, 18h45.
Ah bah, Lyon-Toulouse.
Okay. Nantes-Strasbourg, 21h.
À 18h45.
Nîmes-Saint-Etienne, Brest-Bordeaux, Amiens-Rennes, ce sera demain soir.
Mais pourquoi j'ai.
Et aussi Barça-Real demain soir. Hein.
Ouais. Mais j'ai aucun souvenir. Mais l'OM, ils ont été éliminés.
L'OM est éliminé par Monaco.
Ah oui, j'avais complètement oublié ce match, mais oui.
Sur Direct Studio, Gabi me dit il est temps de virer Jardim. Avec ce qu'on voit ce soir, il n'y a pas d'autre possible, pas de physique, pas d'intensité.
Ah oui, demain il y a Barça-Real. Excusez-moi, mais
c'est le néant Jardim dehors,
BKT,
dit Gabi.
Si vous voulez, mais pas moi.
Et puis Axel nous dit,
je ne regarderai pas la BKT demain, je vous le dis tout de suite.
Axel nous dit, Gilbert, tout le monde achète son pain. Nous sommes en France, c'est le pays du pain. Me dit-il.
Exactement,
mais voilà. Et puis justement, j'ai des boulangers qui se réveillent, notamment le Xav, qui nous dit salut les gars, je suis boulanger. J'avais bien remarqué que Gilbert avait une tronche à manger du pain Harris. C'est totalement faux. Je ne mange pas du pain Harris.
Au moins du pain Harris.
C'est pas du pain, non. Bon, non.
Le pain, toi tu mouches du pain qui n'est pas du pain là.
Le pain de mie dégueu là, c'est pas du pain.
Non, mais pas Harris.
Toi, t'es pas du style à manger une baguette, une tradition, une baguette normale.
J'aime bien avec des pour les œufs à la coque, une bonne baguette.
Ouais.
C'est tout.
Mais sinon, une fois par mois, sinon
beurre salé. Oh
ouais. Non mais lui, il est dans la privation. Hein. Gilbert, il est tellement fit, il est dans la privation.
C'est faux.
Non, mais c'est dans la privation. Si, dans
un jour, je te ferai venir un nutritionniste qui t'expliquera que tu peux manger ce que tu veux. L'essentiel est de faire attention et de varier.
Mais toi, des fois, je te vois, tu fais des trois jours où tu manges rien. À chaque fois, je suis épaté. Je me dis, mais comment il fait? J'aimerais bien moi aussi réussir.
C'est faux.
T'avais pas fait des cures de raisin là pendant une semaine? Tu m'as fait que du raisin là?
Ça, non, mais ça c'est normal, une fois par an, cure de raisin, ça purge. En septembre.
Il fait que des trucs comme ça qui me foutent mauvaise conscience.
En ce moment, c'est cure de pamplemousse.
Il me fatigue, il fait que des trucs.
Ah non, l'extrait, mais ça c'est pour.
Il fait que des trucs comme ça à chaque fois.
Oui, mais jamais malade, mon vieux, regarde. Hop, voilà, tac, on est là. Dans quelques instants, Paulo Breitner, en remerciant Cédric une nouvelle fois, l'Allemagne et le reste de l'actu.
Il se fait sucer le sang, il mange pas de pain, il
suce le sang,
pas de lait.
J'ai eu peur. Je dis, mais il va déborder.
Pas de lait, pas rien du tout.
Le lait. T'as eu confirmation de, t'as dit ça hier, t'as vu de la balance de messages qu'on a reçu.
Regarde.
Je te dis que c'est admis quand il n'y a pas de lactose, ça, le matin magnifique. Léger. Ah ouais, le matin léger, ça passe. Il paraît, on m'a dit.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Jean Montanella avec Daniel Riolo et Paul Breitner qui nous rejoint, car évidemment on suit très près le Borussia Dortmund qui jouait ce soir. Il y a une journée de Bundesliga en semaine, il y avait plusieurs matchs ce soir. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir les amis.
Salut Paulo.
Alors évidemment, plusieurs matchs, hein, notamment ton Union Berlin qui jouait ce soir, qui a perdu
une
d'ailleurs.
Une défaite évitable.
2-0, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà, contre Hoffenheim. Mais le match qui nous intéresse, bien sûr, c'est Dortmund-Leipzig 3-3.
Ah, parce que maintenant, on va devenir...
Score final. Match à but, avec des erreurs de gardien de dingue.
Non mais c'est dingue, parce qu'en fait, c'est le Borussia Janus, quoi. C'est-à-dire que tu as une première mi-temps... Janus, tu sais, le dieu romain des commencements et des fins, si je m'en rappelle bien mes jeunes années. Mais le, en fait, c'est complètement fou. T'as un Borussia Dortmund en première mi-temps étincelant qu'on n'a pas vu comme ça depuis le match de Ligue des Champions contre le Barça qui éclate complètement Leipzig avec des combinaisons dans tous les sens, côté droit notamment avec Sancho et Hakimi, et tu vois ce côté gauche quand ça tourne avec Marco Reus. Je vous conseille de revoir même au ralenti le but de Julian Brandt sur la passe de Sancho. Il fait un double contact, il efface complètement Upamecano pour aligner complètement Gulacsi. Tu te rends compte que quand ce Borussia Dortmund joue comme ça, et ben tu te dis mais il y a quand même pas beaucoup d'équipes en Europe qui peuvent lui résister, et tu vois ça jusqu'en 40. Et puis t'as le début de deuxième mi-temps catastrophique, tu sais même pas s'ils sont sortis du vestiaire, ils te font deux boulettes dont celle de Burki qui est catastrophique, qui revient à 2-2 comme ça, ils se relancent 3-2 et finalement on envoie Schick, le joueur prêté par la Roma et qui égalise à 3-3. Ça fait un match de dingue à la fin, mais tu te dis pardon ?
Non, pas de Schick qui égalise.
Schick, oui.
Non, rien. Parce que nous, on l'appelle comme ça, nous.
Ah bon, et donc, à la fin, tu te dis 3-3, tu te dis, mais comment ça se fait que le Borussia Dortmund n'a pas remporté cette rencontre? Comment cela se fait-il que le Borussia Dortmund puisse être aussi faible défensivement et globalement le bloc défensif soit en deuxième mi-temps? Tu vois, encore une fois, quand je dis Borussia Janus, c'est juste vraiment il y a un paradoxe extraordinaire. Moi, je comprends pas. C'est-à-dire que je veux voir le Borussia Dortmund, évidemment, de la première mi-temps durant 90 minutes et je ne l'ai que pendant 45 minutes. C'est incompréhensible. Je n'ai pas d'explication rationnelle aujourd'hui pour expliquer ce qui se passe. C'est le problème, c'est que c'est comme ça.
Polo, en voyant ce match, en voyant les boulettes, effectivement, et la tournure qu'a pris cette rencontre, tu te dis, ça peut très bien être un score 2-2 contre le PSG, match aller. Mais
ça peut être 4-0 pour le PSG aussi.
Mais, aussi, mais si jamais il devait y avoir une sorte de 2-2 ou un match un peu comme ça, mais très franchement, il faudrait se méfier pour le match retour, alors qu'a priori, un 2-2 ou un 3-3, c'est un bon résultat à l'aller à l'extérieur. Mais cette équipe-là, elle joue tellement dans les déséquilibres des deux côtés, dans les deux surfaces, que elle est flippante et dangereuse en même temps. Quoi.
Ouais, mais Daniel, c'est pas le cas ce soir en fait. C'est parce que là, je rejoins Polo. Je veux dire, sur la première mi-temps, il les mange à tous les niveaux. Les autres ont une ou deux occasions en fin de première mi-temps où le gardien de Dortmund fait deux beaux arrêts. Mais sinon, ils se font manger et ils sont bien dans leur match. Et c'est vrai que le problème, c'est que quand tu débutes la deuxième mi-temps, alors on peut toujours dire il y a des problèmes derrière, mais c'est pas les problèmes derrière là qu'il y a eu, c'est que tu offres tellement les buts, le premier, l'erreur du gardien, elle est incroyable, incroyable. Déjà, je sais pas ce qu'il fout là à sortir aussi haut, alors que bon, le ballon, il était pas dangereux, du moins voilà, il veut relancer sur le côté, et le deuxième, c'est Brandt qui la met dans les pieds directement de Werner, qui se fait un face à face. Donc oui, là, quand tu offres deux buts comme ça, déjà, t'as un traumatisme dans la tête qui est logique, et là on revoit pas le Dortmund de la première mi-temps, mais ça me paraît tellement logique de quand tu offres ces deux buts là à ton adversaire. Derrière, ils ont quand même le talent, parce qu'ils ont du talent offensif, le but de Sancho, le débordement, il est magnifique, le troisième. C'est Royce hein, qui lui donne.
Qui lui donne. En fait, ça part d'Hakimi, ça fait Hakimi Royce et ça revient en triangle.
Non, mais là-dessus, ils sont capables. Et puis derrière, bah oui, ils craquent parce que ils ont tellement peur de refaire une connerie qu'ils reculent et reculent. Et puis après, bah oui, en effet, l'autre, il a joué son va-tout, il a fait rentrer Pacic et puis il y a 3-3. Mais il faut pas retenir ce match-là en se disant. Parce que ceux qui ne l'ont pas vu, ce match de Dortmund, ils vont se dire, ouais, ils ont encore pris 3 buts, ouais, derrière, c'est friable. Non, c'est pas friable du tout, c'est qu'ils ont offert 2 buts. Et quand tu offres 2 tels buts, ça se passera pas tous les matchs comme ça. Ça veut pas dire qu'ils vont faire des cadeaux comme ça, tomber du ciel au Paris Saint-Germain. Je pense pas, moi.
Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau comptable, si on parle juste de la Bundesliga, bah, le Borussia Dortmund ce soir perd encore 2 points. C'est un point qui n'était dans la besace pour Leipzig, qui n'était pas forcément prévu. Mais moi, je suis estomaqué. C'est-à-dire que ça fait une demi-heure, enfin, depuis que le match est fini, que je réfléchis, que je regarde tout ce qui se passe en Allemagne, tout ce qu'ils disent de ce match-là, qu'ils trouvent que c'est complètement cinglé, c'est-à-dire le scénario est quasiment invivable. Ouais. Mais je comprends pas. Je veux bien chercher des explications mystiques, ésotériques, tout ce qu'on veut. Je ne comprends pas, je n'explique pas le fait qu'on puisse passer d'une première mi-temps si bien maîtrisé et qui serait extraordinaire de le voir contre le PSG, parce que c'est une sacrée équipe, le PSG quand même, de le voir, parce que si les deux équipes se jouent à leur niveau et réussissent une première mi-temps comme ça, t'imagines le match que ça pourrait être, ça serait extraordinaire. Ouais, et de s'écrouler comme ça en 11e mi-temps, comme si les gars, ils se débrouillaient, c'est fini, on les a éclatés, ils vont pas revenir, et on offre 2 buts à Timo Werner qui lui en profite évidemment.
Ouais, mais Polo, c'est normal, en fait, c'est quand tu fais une telle première mi-temps, t'as la satisfaction dans le vestiaire, j'imagine le discours, ouais, les gars, il faut continuer. On se relâche pas, là on est en train de les écraser, c'est toujours le discours que t'as des entraîneurs et des joueurs cadres à la mi-temps et du capitaine quand tu fais de telles mi-temps. Mais quand tu reviens et qu'au bout de 30 secondes ou une minute, tu offres le premier but à Leipzig sur cette erreur du gardien. Et psychologiquement, c'est normal. Tu te dis, putain, tous les efforts qu'on a fait en première mi-temps, on avait 2 buts d'avance, là on en a plus qu'un, comment on va faire? Et là, t'as vu une catastrophe.
Ah oui. Mais bon, malheureusement, c'est un peu comme ça depuis j'ai envie de dire, les entraîneurs passent et Dortmund fait pareil tout le temps.
Bon bah écoute Polo, en tout cas on suit Dortmund de près, merci pour le résumé du soir.
C'était génial, si les gens veulent le revoir en replay, qu'ils le fassent, c'était génial.
Tu voulais parler de Sancho, je crois, juste avant de partir.
Ah ouais, mais Sancho, il en est à 60 matchs en Bundesliga, je crois que c'est 22 buts et 32 passes décisives, quoi. Il a 19 ans, le gamin. Donc c'est assez monstrueux. Et quand on voit Hakimi, si tu veux, il y avait Zagadou qui a pas fait un mauvais match ce soir, qui avait 20 ans, parce qu'encore une fois, on est en train de s'habituer à la défense à 3 de Lucien Favre. Et puis bon, enfin, je sais pas, quand je vois le jeu en triangle entre Marco Reus, Hakimi, Sancho, même de l'autre côté, quand Thorgan Hazard se met mieux, et même Julian Brandt qui est repositionné en ce moment à la place de Witzel qui est blessé, vous le savez. Enfin, je sais pas, ça va dans tous les sens.
Polo, c'est quoi l'histoire de Zagadou? Parce que il est bon, je sais, hein, PSG, très jeune et tout, mais à un moment on le voyait plus beaucoup. Là, on lui refait confiance. Il y a eu pas mal de hauts et de bas, certainement dû à la précocité. Mais comment il est vu en Allemagne? Comment tu le vois, toi?
Bah, le problème, c'est qu'il a eu des blessures. Il a été blessé au pied l'année dernière. Ouais. Il avait bien commencé en étant titulaire au départ. Mmh. Pour le dire très simplement, et au départ, il part numéro 3 derrière Mats Hummels et Akanji. Moi, l'international suisse Akanji, je suis vraiment pas un grand fan. Comme en plus Hummels, en ce moment, n'est pas terrible, eh ben, Lucien Favre a décidé de passer dans une défense à 3. Et Zagadou, il réussit à revenir. Le problème, c'est qu'il a un gabarit très particulier. Il fait 2 mètres, c'est une masse physique, etc. Donc, je l'ai vu, par exemple, chuter plusieurs fois, mentalement, parce qu'à 18 ans, 19 ans, tu ne peux pas match après match, toujours être concentré et tu dois apprendre le métier. Je l'ai vu faire des erreurs grotesques et je l'ai vu aussi faire des matchs assez intéressants qui montrent qu'il a un potentiel de développement. Je sais pas jusqu'à où ça va aller parce qu'encore une fois, sa masse physique et puis encore une fois, il fait presque 2 mètres, quoi. Il a 19 ans, je sais pas comment il va finir sa carrière sportive et comment il va se développer sportivement parlant et surtout physiquement parce que c'est assez impressionnant. Mais ce soir, il est pas mauvais du tout. À un moment, il était au duel avec Timo Werner qui est quand même un petit lutin par rapport à lui et qui arrive à lui faire des passes dans tous les sens et il se fait pas avoir. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. Le problème, c'est qu'il est pas titulaire. Là, il revient en ce moment. Mais l'année dernière, il avait joué la moitié de la saison parce qu'il avait été blessé au pied. Puis ensuite, je sais plus s'il avait une blessure musculaire, je me rappelle plus exactement. Donc il avait été un peu disparu dans le championnat avant de revenir en fin de parcours. Mais on sait comment ça s'est fini avec le Borussia Dortmund l'année dernière. Je pense qu'il est en train d'apprendre une très grande expérience. Je vais pas dire que ça sera un futur grand. Je veux juste le voir évoluer. Je trouve que c'est plus intéressant de regarder ce que fait Upamecano en ce moment et Konaté avec Leipzig. Je pense que Zagadou est un peu en retard, mais il peut très bien trouver sa place si évidemment il est aidé par un
trentenaire à côté. Ils sont tous jeunes, hein.
Ouais, ils sont très très jeunes.
On a vraiment
l'impression
qu'ils s'éclatent en Bundesliga, hein, tous ces jeunes français qui partent tôt, là.
Ils s'éclatent. Il y a ceux qui ont compris qu'il faut pas l'ouvrir trop souvent parce que qu'il faut prouver sur le terrain. Moi, chez Zagadou, il aurait très bien pu faire comprendre qu'il pouvait jouer plus souvent et aller dans un club peut-être moins huppé que le Borussia Dortmund pour essayer de faire 2 saisons prêtées. Il l'a pas fait. Il prend sa chance et il le fait très bien, je trouve.
Merci, Polo.
C'est moi qui vous remercie.
Salut, Polo. Bonne soirée et à très vite pour reparler du Borussia évidemment et du reste de la Bundesliga qui continue demain d'ailleurs comme la Coupe de la Ligue. Info du jour, la Coupe du Monde des clubs, Flamengo, le champion d'Amérique du Sud qui a gagné la Copa Libertadores s'est qualifié pour la finale aujourd'hui. Victoire face aux Saoudiens de Al Hilal, c'est le club de Bafé Gomis, 3-1. Donc
Liverpool-Flamengo.
Sans doute, bah, Liverpool-Flamengo.
Ils étaient menés 1-0 à la mi-temps.
Exactement. Et c'est bien, ces matchs sont pas retransmis là en France. Personne n'a voulu de ces matchs. Bon. L'OM, c'est une info de l'équipe. L'OM s'intéresse à Gamero et Lemar pour le mercato d'hiver. Alors Lemar, ça paraît bizarre parce que
De quoi tu dis, pardon?
Je disais que l'OM s'intéressait. L'OL. J'ai dit l'OM?
Oui, t'as dit l'OM.
Ah pardon, c'est un bug de ma part. L'OL, l'Olympique Lyonnais, s'intéresse à Gamero et Lemar.
Moi, on m'a dit Lemar, 0% de chance.
Ben oui.
Non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr, mais déjà
0% de chance.
Déjà pourquoi il n'y a pas de chance? Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de vendre du rêve aux supporters lyonnais. Du moins je ne sais pas si c'est un rêve d'avoir Thomas Lemar dans leur équipe aujourd'hui, parce qu'il est quand même dans une situation compliquée à l'Atlético Madrid. Mais quand tu vois financièrement ce qu'il gagne là-bas, c'est impossible qu'il revienne en France, du moins à part au Paris Saint-Germain. Mais il viendra pas au Paris Saint-Germain. Donc il faut arrêter de penser que, à moins qu'il fasse des efforts énorme, mais comment il va s'asseoir sur un tel contrat à l'Atlético Madrid qu'il a signé il y a un an et demi.
Ils auraient pu s'arranger avec que le salaire soit un peu pris en charge.
Mais non, visiblement
c'est impossible.
Et apparemment l'Atlético, et c'est pas apparemment, c'est que je le sais de source sûre, c'est que l'Atlético Madrid, le directeur sportif, a dit s'il y a un départ de Thomas Lemar et ils veulent le faire partir pour recruter, il veut se dégager de la masse salariale.
Pratique, ben oui. Donc exactement. C'est impossible pour lui.
C'est impossible. Et bon. Par contre, Gamero peut-être. Ça, je sais pas. Ça, par contre,
Gamero, c'est pas forcément une mauvaise idée. Hein.
C'est pas une mauvaise idée.
Gamero, ça veut dire que t'envoies Dembélé sur le banc. Encore que Gamero aime pas forcément jouer tout seul devant, donc il peut jouer avec l'autre devant, mais ça provoque un vrai changement tactique. Il faut jouer à deux devant, quoi. Il n'a pas les caractéristiques de Memphis, Gamero, quand même.
Non, mais si tu joues à deux devant...
Ah, mais Dembélé et Gamero, deux dans ce profil-là, je ne sais pas trop, pour le coup.
Oui, ça, je suis d'accord avec... un point d'appui... je crois que Dembélé n'est pas vraiment un point d'appui, je ne sais pas.
En tout cas, Lyon, Lyon s'active, en tout cas.
Ça confirme ce que je disais, ça va être un mercato à la va-vite. Donc, les opportunités, encore plus en hiver... Donc déjà que quand ils ont eu le temps, Flo Maurice et sa bande, ils ont fait n'importe quoi au mois de juin, juillet. Et ben, j'espère qu'ils vont pas se tromper parce que c'est quand même alarmant.
Tiens, dans la conférence de presse du jour à Lyon, il y a Bertrand Traoré qui s'est exprimé. Il parle pas de mercato. Le journaliste lui dit, bah quand même, ça manque un peu de vitesse dans le jeu à Lyon, non ? Réponse de Bertrand Traoré, écoutez bien.
Est-ce que physiquement vous êtes crevé ? Je pense qu'on va essayer de faire une course de vitesse ensemble. S'il n'y a pas de vitesse, on fera une course. Vous allez voir s'il y a la vitesse ou pas.
Il est bon, lui. Il n'y a pas de vitesse dans le jeu. Il dit, bah, viens courir avec moi, on va voir si.
Ah, mais ça, mais non, on n'a jamais dit qu'il était lent, lui. Le problème, c'est qu'il va trop vite avec le ballon. Eh ben oui. Et donc, tu sais, le ballon, au d'un moment, et puis le journaliste, il est un peu. Quand il dit il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de vitesse. De toute façon, vitesse, ça veut dire que ça veut rien dire, quoi.
Vitesse, oui, après le fond.
C'est le ballon qui doit aller vite. Et après, vitesse de course, bah, tu fais de l'athlétisme, il va faire un 100 mètres.
Deux, trois infos sur le PSG. Demain, le PSG est au Mans. Donc, pas de Cavani, pas de Draxler, pas de Gay, pas de Kimpembe, alors que Herrera revient. Voilà, une info alors, le match de demain. Guardiola a confirmé les contacts entre Arteta, qui est son adjoint, et Arsenal. Donc, contact établi pour le poste d'entraîneur.
Ah, bon courage. Arsenal, ils sont à l'envers. Hein.
Arteta qui entretient toujours des relations très intenses avec Luis Fernandez.
Mmh. Bah, c'est Luis l'a vraiment connu très très jeune.
Il peut prendre Luis comme adjoint à Arsenal. Très jeune.
Mais Luis pas adjoint, Luis.
T'imagines?
Je me demande s'il irait pas.
Bah non, évidemment qu'il irait.
Arsenal, non mais en adjoint.
Arsenal.
Non mais en adjoint.
Tu l'attaques un peu trop, Luis, en ce moment.
Mais non,
évidemment
pas,
qu'il irait. Luis. Ça veut dire quoi?
C'est génial.
Bah non.
Et attends, Luis avec Arteta, Arsenal.
Attends, Luis.
Ah, c'est vrai qu'en ce moment on en parle beaucoup. Je l'ai finalement eu au téléphone aujourd'hui.
Ah.
Ça me plaît. Là, je sais pas. Je sais pas s'il a voulu me faire. Il m'a appelé en masqué.
Ah.
J'ai dit, mais non, Louis, je te réponds, pas de problème, c'est pas parce que je vois ton nom que.
Ah, si tu parles en bien de lui, t'as mis un coup de pression.
Ouais, oh, ça va, on se connaît depuis, plus de 20 ans, franchement.
Des nouvelles de Pogba, vous dire qu'il n'y a toujours pas de date de retour, c'est ce qu'a dit Solskjaer le concernant. Donc on ne sait pas quand il va revenir.
Pogba,
mystère
c'est
absolu.
Quand même un joueur.
Il y avait polémique parce qu'il était sur les réseaux sociaux à un mariage, mais c'est le mariage de son frère. Il peut quand même aller au mariage de son frère, le gars, sans que ça fasse polémique.
Mais tu te rends compte que.
Bah, aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire, en fait.
Depuis la Coupe du Monde, c'est quand la dernière fois que Pogba était bon, quoi. Pogba, il était bon à la Coupe du Monde. Et depuis, plus rien. Et même l'année d'avant.
Je crois qu'il faut qu'il parte vite de Manchester.
Non, c'était dur de dire plus rien. Parce que l'année dernière, rappelle-toi, sur la première partie de saison de Manchester, il n'y avait que lui.
Bah, d'accord, mais enfin, c'est une.
Après, il s'est blessé.
Une demi-saison. Après,
oui,
il
non,
se
non.
blesse.
Attends, bien après, sûr, c'est pas un modèle de régularité.
Quand même. Là, et même avant la Coupe du Monde, rappelle-toi, dès qu'il sortait en équipe de France, il n'était pas bon. La saison, elle n'est pas terrible. Pogba, il est en voie de disparition.
C'est
quasi,
pour ça que
alors, les gars, pour finir, trois messages.
Je fais l'interview de Didier Deschamps vendredi.
Exactement, ce sera dans Rotten Régal vendredi.
Voilà, Rotten Régal, 2 heures, une émission spéciale avec Didier. Et donc, toutes ces questions-là sur Paul Pogba, si ça l'inquiète,
excellent teasing,
il répondra.
Très bien.
Et pas avec sachez, de bois, bien sûr.
Sachez, parce qu'on me pose plein de questions sur notre opération Big Bang du foot français. On la mature, on la prépare, on va lancer ça en 2020. Mais
le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a des trucs nouveaux qui se calent. Et
je
dis, on va faire le truc.
Tu sais que tout le monde est intéressé. Je reçois tous les jours des dossiers d'auditeurs de l'After qui m'envoient leurs propositions. Là, j'en ai reçu encore un aujourd'hui. Soccer Excel, magnifique, un truc de 30 pages. Donc, on garde tout, hein, et puis on compilera tout ça, bien sûr. Et puis, les gars, je profite que vous soyez là tous les deux, parce qu'en ce moment, je reçois beaucoup de lettres pour vous. Qui vous concerne. Alors une petite lettre en ouverture, Dimitri qui nous écrit. Il dit « Salut l'After, je me présente, Dimitri, 21 ans, je t'écoute depuis que j'ai 12 ans, l'After. Sache, mon cher After, que je t'aime. Je ne suis pas d'une famille de footeux, j'ai donc dû faire ma propre culture foot et tu as clairement contribué à tout cela. Voilà, nous dit Dimitri, tu comptes beaucoup dans ma vie, je ne te remercierai jamais assez. » C'est une lettre à l'After que je voulais lire. Encore une autre, tiens, Alexandre. Salut toute l'équipe, j'ai 34 ans, ça fait 14 ans que je vous écoute. J'ai loupé aucune émission. J'ai voyagé, j'ai téléchargé tous les podcasts, je vous ai écouté en Australie, en Thaïlande, au Laos. Pour moi, deux anecdotes. Un bus que je fais arrêter en Birmanie car je téléchargeais le podcast et j'avais pas de connexion, donc j'ai dû dire au chauffeur d'attendre. Voilà, donc les anecdotes sont fantastiques.
Ah, c'est beau,
j'ai traversé l'Australie avec toujours pour but de trouver une librairie, enfin une bibliothèque afin d'avoir une connexion internet et télécharger mon podcast, voilà, grâce à vous. Maintenant, je suis le mec qu'on vient voir au boulot pour parler foot, parler tactique et demander son point de vue.
C'est
voilà,
bon.
Excellent. Et puis une dernière, je lis, il y en a plein en ce moment, Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste, j'ai 30 ans, j'habite Brive-la-Gaillarde. Voilà.
Ça me fait penser que ça fait au moins deux mois que je ne suis pas allé chercher le courrier là-haut.
Voilà. Eh bien, mon concours de médecine, je le dois à mon travail, mais aussi à vous tous, l'équipe de l'After, car j'ai révisé en vous écoutant tous les soirs. Ça m'a motivé, nous dit Jean-Baptiste. Donc, voilà. J'aime tout dans l'After. La présence féminine de Laure Le Payeur, l'insuffisance respiratoire de Roland Courbis. J'ai jamais appelé le 32-16 parce que j'ose pas. Je me suis un auditeur caché, nous dit Jean-Baptiste, qui est donc médecin et qui remercie l'After parce qu'on l'a aidé dans ses études.
Bah oui.
Bah merci à tous pour ces lettres. C'est sympa.
On n'a jamais fait redoubler personne.
Le jeu de Noël pour conclure, on y va.
Mais il est énorme le paquet là.
Ouais. Il y a un cadeau dedans.
Pourquoi c'est pas moi qui ouvre ?
Parce que c'est...
Mais non, moi je veux ouvrir, j'ai jamais ouvert depuis.
Tu donnes le Daniel. Commencé.
Ah non, non, moi j'ai jamais ouvert depuis. Ah, ben ouais,
on a Hélène avec nous, bonsoir.
Ça te va tellement fort.
Bonsoir.
Salut. Eh bien écoutez, t'as été tiré au sort.
Et pourquoi une boîte aussi énorme avec une toute petite enveloppe dedans ?
Est-ce que tu es prêt à écouter Daniel ?
C'est dingue un gars.
Ouais, j'écoute Daniel, ouais.
J'y crois pas que c'est lui qui offre.
Daniel, vas-y, annonce à Hélène son cadeau.
Le paquet, il est tout petit à l'intérieur.
Son cadeau de Noël.
Je m'étonne, surtout toi. Une orange.
Bah, mon vieux, t'as gagné une PS4.
Ah
ben, tant, merci.
Ah ouais, tu vois, fallait bien que ce soit moi qui tire.
C'est pas mal pour Noël.
C'est un beau cadeau, ça.
Merci, Daniel.
Merci.
Je suis content de t'offrir ça, même si c'est pas moi qui casse, c'est Jérôme. C'est lui qui
paye. Bah, écoute, reste fidèle, hein. Et puis.
Avec l'oseille de sa carrière, tout ça.
À très bientôt. Salut, Hélène.
Ouais, et puis surtout,
Jérôme, Daniel, on se retrouve demain soir. Il y aura le Classico demain soir, plus la Coupe de la Ligue, plus de la Bundesliga. Autant dire un programme chargé. Dès la fin des matchs demain soir. Bonne nuit à tous, à demain.